L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bienvenue dans l'EM, l'émission sur Radio Évasion. L'association EOST, études ouvertes sur Telgruc-sur-Mer, contribue par de nombreuses actions à la préservation et à la collecte mémorielle de la commune. Parmi les actions de l'association, l'édition d'ouvrages sur Telgruc est très attendue par les habitants. Au total, c'est maintenant 13 ouvrages qui ont été écrits par l'association. Parmi ces 13 livres, l'association a abordé la vie durant l'occupation, le bombardement du 3 septembre 1944 qui a détruit le bourg de la commune, ou encore les Telgruciens au cœur de la Grande Guerre 14-18. Pour ce nouvel ouvrage, l'association a décidé d'aborder la période des années 60 au début des années 80. Pour en discuter, nous avons rencontré Jean-Pierre Kemener, président de l'association EOST. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors on pourrait se dire, en voyant le titre « Tourisme et agriculture 60 à 80 », que finalement nous voilà dans une période calme, dans les 30 glorieuses, sans véritable secousse. Est-ce que pendant cette période, c'est mer calme à Telgruc ou il y a aussi quelques petites tempêtes ?
Ah, la mer est calme simplement sur la couverture. Et par contre, il y a eu des soubresauts, oui. C'est l'époque, oui, comme les 30 glorieuses. Donc l'après-guerre avec la fin des restrictions hein, de l'immédiate après-guerre et avec le début de la société de consommation. Donc tout marche bien, à Telgruc on reconstruit, à Telgruc on consomme, et il y a de nombreux magasins au bourg et ailleurs, hein, et il y a aussi de nombreux bistrots et auberges. Ce qui se passe, oui, comme il y a la population augmente, hein, le baby boom, donc après la guerre dans les années 50, là c'était une année pléthorique hein, pour les naissances et tout ça, donc finalement la population scolaire augmente, donc il faut agrandir les écoles, il faut aussi penser à la scolarité après le primaire, et à Telgruc on a l'idée de faire un CEG, donc dans les années 58-59 au début, puis après ça démarre véritablement en 61-62, là, où Telgruc avait pensé à l'avenir de ses enfants finalement, qui étaient nombreux, et vu l'exode rural, donc il fallait bien leur trouver aussi un débouché, une formation, et c'est dans cette optique-là que le CEG a été créé, et ça commence finalement, le livre commence par... Tout un chapitre sur le CEG.
CEG, c'est pour le collège.
Voilà, c'est collège d'enseignement général.
Donc ça voulait dire qu'on pouvait, en habitant à Telgruc, qu'on pouvait aller au collège jusqu'en 5e, c'est ça ? Ou un petit peu plus loin ?
Normalement jusqu'en 3e, oui. Donc à Telgruc, il y avait le primaire, il y avait une école des filles, une école des garçons qui étaient séparées, à l'époque encore. Et donc il y avait aussi des classes... post-CM2, si on veut, des fins d'études, comme on appelait ça, c'était des gens qui se destinaient à la vie active plutôt, et puis qui passaient leur certificat d'études. Mais là, on a proposé aussi que les enfants aient en 6e qu'en 5e, et c'était les collèges d'enseignement généraux. Il y en avait au Fou, il y en avait à Pont-de-Buis, à Telgruc, à Crozon, Camaret, et ici, et à Châteaulin. Et à Telgruc, donc ça marchait assez bien parce qu'il y avait un pensionnat. Et dans ce pensionnat-là venaient les enfants de familles déshéritées ou nombreuses, ou bien qui avaient des problèmes d'argent, qui recevaient des bourses pour être logés à l'internat à Telgruc. Donc il a fallu construire des internats dans les deux bâtiments, c'est-à-dire finalement dans les greniers, quoi. Il y avait des grands dortoirs qui sont encore actuellement visibles dans un état second, mais donc ça permettait aussi d'avoir plus de population, et puis ça montrait aussi le dynamisme de la commune. Mais il fallait après construire aussi d'autres classes, parce que les classes ne suffisaient pas, donc il a fallu construire des baraques, et la municipalité s'est investie énormément là-dedans, parce que finalement l'État se désintéressait un petit peu et ne fournissait pas l'argent nécessaire.
Alors, on sort d'une période en 45 où le bourg est totalement ravagé suite au bombardement du 3 septembre 44. Combien de temps ça a mis à reprendre à peu près une forme habituelle pour les Télérussiens ?
Oh ben là, il faut compter au moins 15 ans, c'est-à-dire on arrive de 40 à 60, hein, donc là on arrive dans la période glorieuse en 60 où les familles ont des maisons parce que tout a été détruit, donc après il a fallu loger les gens dans des caves, même on a logé des gens dans des baraques qui étaient visibles encore dans la rue des Pins là, jusqu'aux années 70, donc des baraques goudronnées, des baraques réquisitionnées, enfin récupérées chez l'occupant qui était là dans la presqu'île, donc et aussi même dans les bunkers, donc dans le bunker du Ménélus, il y avait une famille, la famille Causeur qui y habitait, qui avait aménagé son intérieur pour y habiter, quoi, près des carrières. Donc c'était le même des gens qui quémandaient des caves pour vivre avec des enfants et tout ça. Donc c'était quand même un problème avant 60, quoi. Là après en 60. 62, 65, on a commencé à construire des lotissements au Ménélus et aussi du côté de la rue de Rosmadec et tout ça. Donc c'était le boom aussi des constructions, donc le boom de la pierre, le boom de la carrière, donc qui fait boom, et donc les coups de mine qui, au début, c'était la carrière, c'était un... Comme j'étais voisin, donc c'était notre terrain de jeu. On allait jouer dans les trous qui étaient creusés par les ouvriers là, qui cassaient les cailloux, enfin à la barre de mine et enfin qui les tiraient à la barre de mine et qui les cassaient au marteau. Donc ils avaient des marteaux spécifiques pour faire des petits cailloux, mais il y avait aussi des gros blocs qui servaient à faire les maisons. Et donc les maisons de Telruc sont faites en moellon de la carrière de Ménélus, et ils sont très solides, hein, ça n'a pas de problème.
La proximité de cette carrière, c'est pas sans poser de problème.
Non, il y a eu quelques problèmes par la suite, évidemment, parce que le lotissement a été créé en 1950, donc les gens ont commencé à construire jusqu'en 60, et il fallait construire dans les 2 ou 3 ans qui venaient, ou dans les 5 ans. Donc les gens ont construit jusqu'au bord, finalement, de la carrière, hein, qui, alors, n'avait pas encore toutes les... Enfin, n'était pas industrialisée comme ça a été par la suite, parce que, donc, il y avait un petit concasseur qui a été installé, bon, qui faisait du bruit, de la poussière aussi, et après, donc, il fallait aussi faire sauter la pierre à la mine. Donc là, il y avait des retombées de cailloux chez nous, sur les toits. Et même, on a failli quelquefois être tué par des éclats de pierre. Et il y avait une personne qui s'occupait de ça. Il disait « Gare la mine !» Donc il hurlait en haut du Ménélus « Gare la mine !» Et tout le monde se planquait. Quoi. Et là, on attendait que ça se passe. C'était un peu l'après-guerre, quoi.
Ça, c'est un conflit de voisinage un peu atypique. La carrière aussi, les chemins d'accès aussi se font aussi au lendemain de la guerre aussi, c'est ça ?
Oui, qui dit industrialisation dit aussi augmentation du trafic des camions, hein, et des camions qui sont de plus en plus lourds, hein, des poids lourds comme on les appelle, hein, et au début c'était des petits camions tout calmes, avec il fallait les charger à la main, donc finalement ils passaient pas trop souvent, mais après quand il y a eu par exemple l'enrochement du port de Morgat ici, les constructions un petit peu partout à la base de Poulmic ou ailleurs, ou les longues, il a fallu extraire pas mal de cailloux, et on a fait des installations immenses, quoi, qui ont fait en sorte que y a des camions qui passent là nuit et jour. Donc les riverains se sont un peu révoltés parce qu'ils ne pouvaient plus dormir entre la poussière, le silice et le bruit permanent des trémies et des concasseurs qui marchaient, et le passage des camions nuit et jour, ça faisait un peu beaucoup.
Alors, parmi les dossiers difficiles à gérer pour la municipalité de Telgruc, on va dire qu'il y en a deux. Il y a la question du remembrement. Alors, quand on connaît pas forcément la période, on est très surpris de voir que ça a pu prendre des proportions assez importantes quand même.
Ah oui, là, le remembrement était normalement en route depuis la fin de la guerre, hein, c'est-à-dire que pour...
C'est initié en 41, si je ne me trompe pas.
Oui, donc c'était à cette époque-là, pendant la guerre, et pour faire en sorte que les propriétés ou bien que les fermes ou bien les agriculteurs aient des parcelles qui soient beaucoup plus grandes et d'un seul tenant, et pour mécaniser finalement aussi la production agricole, parce qu'il faut voir que ces parcelles-là, quand on fait de la toponymie ou quand on a la microtoponymie, on voit que les parcelles en 1830 avaient toutes le même nom sur... Bon, c'était une grande parcelle, par exemple, d'un hectare, avait le même nom et a été divisée ensuite en tout petits morceaux, quoi, avec les héritiers, etc., etc. C'était devenu un damier complet. Et je ne sais pas, quelquefois, comment les gens cultivaient, parce qu'ils avaient peut-être 12 sillons ou bien même moins. Donc, les chevaux passaient toujours, il n'y avait pas de problème. Mais après, quand on a reçu des tracteurs venant d'Amérique ou d'ailleurs... Hein, ou donc des fameux ponies et tout ça, là, donc il fallait avoir des parcelles beaucoup plus importantes, donc tous les paysans, les agriculteurs étaient d'accord pour qu'il y ait un remembrement. Certains avaient commencé déjà des remembrements à l'amiable entre voisins, connaissant la valeur des terrains et tout ça, mais après, ce qui est arrivé en 70, comme ça avait tellement traîné, on a imposé le remembrement par le haut, c'est-à-dire que des technocrates sont arrivés là, technocrates payés évidemment par qui ? Ben, par les agriculteurs, c'est-à-dire que par les impôts locaux, etc. Donc là, il y a eu de l'argent pour payer quelque chose qui était initié par quelqu'un d'autre, quoi, donc par la hiérarchie. Et c'est ça, sans doute, qui n'a pas plu du tout au Telgrucien. Et une autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que Telgruc ayant été détruit pendant la guerre, il y a eu un plan d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on a reconstruit et autour de l'église il y avait une certaine distance, je ne sais plus si c'était 150 mètres ou 200 mètres oui, ça ne fait pas beaucoup, hein, tout autour de l'église, hein, il y avait donc on ne pouvait pas enfin là il y avait du terrain à bâtir, hein, donc, mais n'était pas considéré comme était considéré comme terrain, mais avait une valeur peut-être un peu plus importante. Or il y a dans cette époque-là, au même moment d'ailleurs, il y avait une révision du plan d'urbanisme qui voulait faire en sorte que Telgruc se développe, comme c'est le cas maintenant, plus vers la mer, avec toute la route de la plage, après le bord de mer et l'Usioc et tout ça, et tous ces endroits-là, et pour, les paysans ne connaissaient pas, ou bien certains connaissaient, certains qui étaient à la mairie peut-être, ou bien dans les commissions, connaissaient le plan d'urbanisme, donc on ne pouvait pas. C'était difficile de faire chevaucher un plan d'urbanisme et un remembrement obligatoire en ne connaissant pas finalement la valeur des terrains. Parce qu'un terrain aride en bord de mer, qui ne valait rien du point de vue agricole, pouvait se révéler tout de suite, immédiatement, un beau terrain à bâtir, très très cher, beaucoup 10 fois plus cher que la même terre agricole.
Alors, la contestation va loin, et elle est plus localisée, comme vous l'expliquez, du côté de la plage, non ?
Ah oui, ben là, oui, évidemment, c'est dans le haut de Telgruc, Oré-Terruc, ça s'est passé à peu près, enfin, à peu près bien, mais du côté de la mer, évidemment, certains se sont vus attribuer des terrains, des bons terrains agricoles, mais n'ayant aucune valeur, enfin, ayant une moindre valeur. Donc, c'est là qu'il y a eu du sache-bléau, comment on dit en breton, hein, les gens se sont tirés sur les cheveux, et entre voisins, et en plus, il y avait une autre chose aussi, c'est que les paysans étaient très attachés à leur terre ils connaissaient tous leurs terrains, tous les terrains avaient un nom et c'était quand même le patrimoine de la famille, et on n'allait pas le céder forcément à quelqu'un d'autre, hein, sauf à quelqu'un qu'on connaissait peut-être bien ou avec qui on avait de bons rapports. parce qu'il y avait aussi des frairies à Temruck jusqu'alors, hein, ça marchait très bien, le travail se faisait en communauté et tout, mais ce remembrement imposé d'en haut par des technocrates, hein, ils parlent du fameux TACO, là, T-A-C-O, que je ne savais pas au début ce que c'était. Les techniciens arraseurs de talus technocrate arraseur en chef officiel, TACO.
La contestation, elle s'organise aussi.
Oui, elle s'organise. C'est Monsieur Gourmelin qui organise ça au départ. Réunissant autour de lui, oui, donc au plus de 100, 200, 300 agriculteurs, parce qu'à l'époque, il y avait quand même un très grand nombre d'agriculteurs sur la commune qui avaient tous journaux, comme on appelait à l'époque, 10 hectares à peu près, des petites exploitations qui étaient autonomes. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi une population de 2000 habitants, mais donc il y avait 200-300 agriculteurs, ça faisait déjà pratiquement toute la population de Telgrut, il y avait très peu de monde au bourg. Et ça s'est organisé, il y a eu des réunions pour que les gens demandent des explications à la mairie, donc pour que tout soit clair et tout ça, mais il y a eu, il me semble, des erreurs qui ont été commises par les technocrates, justement, et après les maires et les conseillers municipaux devaient essuyer les plâtres, c'est-à-dire quand il y avait des problèmes, ils étaient aux premières loges pour faire le tampon entre la hiérarchie et les agriculteurs mécontents.
On va dire que la phase de concertation, comme on dirait maintenant, n'a pas fonctionné, et ce collectif d'agriculteurs est passé à l'action directe.
Ah oui, là c'était l'action directe au mois de juillet 70, ils sont allés...
Arracher
les bornes, les nouvelles bornes qui étaient mises pour les nouveaux terrains, et ça s'est fait, bon, sur un coup de sang apparemment, mais il y a donc... on pense qu'il y a eu 300 bornes, ou bien, mais certains disent il y a beaucoup plus que ça, et au moins 600, et donc il y avait des charretées entières de bornes enlevées qui arrivaient au bourg, mais comme c'était la saison touristique, on les a pas quand même déversées devant la mairie ou ailleurs, ils ont été déversés sur des terre-pleins, ou bien, mais quand même, c'était une action, l'action directe, oui, des paysans de Temruck qui étaient normalement très, légaliste, plutôt, d'accord avec le gouvernement, hein, ben, comment les gouvernements de Gaulle et Pompidou. Hein.
Et ça va jusqu'au tribunal, c'est l'affaire se règle au tribunal, il y aura des condamnations, il y aura des casiers judiciaires pour les jeunes Telgruciens de l'époque, c'est un jeune sur 20 qui aura un casier ouvert du coup suite à cette contestation et ce règlement au tribunal. Alors il y a un autre dossier aussi qui agite Telgruc à cette période-là, c'est la question du tourisme et du développement. Il y a un plan touristique assez ambitieux qui est réfléchi, un plan d'aménagement de la baie de Douarnenez, et alors le projet de la Berre, le projet de marina de la Berre à Crozon est bien connu, mais il se passe aussi des choses à Telgruc. Alors qu'est-ce qui avait été imaginé pour Telgruc?
Ah, pour Telgruc, c'était dans le plan général de l'aménagement de la baie de Douarnenez, avec des ports de plaisance, des marinas comme à la Berre, et à Telgruc, il y avait aussi à la pointe à Penarvir, hein, il devait y avoir un port de plaisance, alors en plein vent, donc il était prévu de faire une jetée et tout ça, mais bon, je crois qu'il n'aurait pas tenu. Donc à Morgat, c'était encore abrité, bon, à la Berre, c'était gigantesque et pharaonique, quoi. Donc, et tout jusqu'à Plogoff, la pointe du Raz, etc. Donc, tout était prévu pour organiser tout ça, faire des grandes routes, faire une marina, même à la plage de Telgruc, entre la plage de Trezbelec et la plage de Trezbienne. Et même, on aurait pu faire, d'après les technocrates, on aurait pu faire aussi des garages à bateaux, puis après des appartements surplombant la mer, et tout ça un peu comme à Bonifacio en Corse, quoi. Donc c'était leur optique, c'était de faire ça comme ça, mais finalement...
Alors qu'est-ce qui a fait capoter le projet ?
Capoter le projet, c'est surtout les... Bon, il y a eu des associations de défense de l'environnement, de protection de l'environnement qui se sont réunies et qui ont montré que les gens riches iraient plutôt ailleurs passer leurs vacances qu'à Telgruc en hiver. Ils n'avaient pas pensé peut-être que la mode viendrait aussi au surf et à la voile, mais c'était prévu surtout pour des gens riches, quoi. Donc ça permettait aussi aux agriculteurs qui étaient là en bord de mer avec des terrains arides de vendre leurs terrains à prix d'or, s'ils avaient voulu. Mais ils ne voulaient pas céder leurs terres parce que c'était quand même le patrimoine familial et ils étaient agriculteurs avant tout. Mais il y a eu aussi d'autres choses. Il y a eu, donc dans les années 70, il y a eu les problèmes... la crise pétrolière, donc qui fait en sorte que on a tout ça, ça coûte beaucoup plus cher, la construction, etc. Et il y a eu aussi les marées noires. Alors les marées noires qui sont arrivées dans la baie de Douarnenez, évidemment, ça ne faisait pas bon effet. Hein, le Belen, qu'est-ce qu'il y a eu autrement, la Mococadise, etc. Et là, on a commencé à comprendre que c'était peut-être pas l'idéal, qu'il fallait garder quand même des endroits qui soient naturels. Et heureusement que ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que le port de Morgat a été construit et amélioré, agrandi. Bon, il y a un autre port à Douarnenez. Hein, mais entre les deux, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus raisonnable.
Alors, un mot peut-être au niveau de la vie politique sur Telgruc. C'est une période où les conseils municipaux s'enchaînent. En fait, on vote un peu plus à Telgruc, on retourne plus à l'isoloir que dans certains endroits.
Oui, il y a eu, à cause de décès, pendant la... Le mandat, hein, donc on a eu, il y a deux maires qui sont décédés pendant leur mandat, Monsieur Bouguillon et Monsieur Alix. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que municipalité sur l'autre, hein, d'une élection sur l'autre, ça change. Hein, les municipalités se suivent. C'est pas toujours les mêmes qui sont réélus, c'est jamais les mêmes d'ailleurs. Hein, mais comme il y a ce fameux panachage, donc on retrouve de plus ou moins les gens soit à la municipalité, dans l'opposition ou dans la majorité.
On trouve toujours du monde pour faire maire à Telgruc.
Ah oui, on trouve toujours du monde et il y a même des listes, de nombreuses listes en concurrence. Alors je me demande même comment on peut recruter tant de monde pour 3 ou 4 listes. Mais certainement après le problème du remembrement, bon là il y a des gens qui étaient vraiment mécontents. Ça fait que le maire de l'époque a été remplacé par... par son concurrent, mais bon, il a été aussi confronté à d'autres problèmes et il n'a pas duré non plus beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que les gens y vont peut-être surtout pour des intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts collectifs et il y a peut-être aussi un manque d'informations auprès du public, auprès des électeurs. Et aussi, surtout, un manque d'argent et un manque d'autonomie des municipalités pour éventuellement faire quelque chose qui leur tienne à cœur. Bon, comme ça a été le cas, par exemple, dans la construction du CEG, où ils ont investi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et il faut dire qu'à l'époque, l'amicale laïque était très, très importante à Telgruc. Et finalement, ça leur a été... tout le travail qui a été fourni par les municipalités a été nié par la hiérarchie, par le pouvoir politique en place, qui a fait construire après le collège, le CES, alors du coup de Crozon, le CES Alain, où tous les enfants des CEG devaient aller transporter chaque jour en car, et ce qui ne leur plaisait surtout pas, c'était qu'il n'y avait pas d'internat, parce que les gens avaient du mal à gérer leurs enfants quand ils rentraient à la maison le soir, parce qu'ils étaient souvent agriculteurs, donc il y avait quand même du travail à fournir à la ferme.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Kemener de l'association EOST pour la présentation de ce nouvel ouvrage « Tourisme et agriculture 1960 à 1980 ». Alors, dans l'interview, on n'a pas évoqué le petit côté people de Telgruc-sur-Mer aussi. Il y a eu une célébrité qui a marqué la période aussi. Mais ça, ce sera à découvrir dans le bouquin.
C'est exact, c'est Paul Le Flemme.
L'émission. l'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Vous écoutez l'EM.